dans les oreilles de un invité.
Je suis Mathieu Bogart.
Jane Birkin.
Romain Gavras.
Luigi Sakamoto.
Monster.
Dans les oreilles, une vie en musique.
Qu'est-ce que j'écoute en ce moment? Ça, c'est une bonne question.
There are many, many songs. Pour moi, c'est difficile d'expliquer.
Nova.
À chacun sa BO.
D'abord, on m'a forcé à aller à l'opéra.
Ça m'a vraiment fasciné.
Le blues et le reggae.
C'était super bien.
Parce que la musique, c'est le plus profond langage humain.
Nova vous plonge dans les oreilles de
Jean-Michel Jarre.
Ben, je suis un musicien français qui a commencé dans des petits groupes de rock obscurs dont la notoriété dépassait pas le bout de ma rue, et aussi en ayant étudié l'harmonie, le contrepoint au conservatoire. Et puis je suis tombé dans la marmite de la musique électroacoustique électronique avec au groupe de recherche musicale dirigé par Pierre Schaeffer à l'époque, et qui a changé ma vie comme elle a changé, je pense, l'avenir de la musique telle qu'on l'a fait aujourd'hui, c'est-à-dire de pas penser la musique en termes de notes basées sur le solfège, mais en termes de son. Et de se dire qu'au fond, ce qui différencie le bruit de la musique, c'est finalement la décision du musicien. C'est-à-dire qu'en fait, n'importe quel bruit peut devenir musique à partir du moment où on le veut. Et donc, finalement, cette idée de l'oxymore, qui est le titre de ce nouvel album, qui en fait montre bien l'idée qui m'a beaucoup séduit, moi, dans ma vie, d'assembler des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres pour en faire quelque chose de personnel.
Dans les oreilles de...
Oxymore, donc, dernier disque du compositeur Jean-Michel Jarre, qui prend place dans une riche discographie où musique de films côtoient succès mondiaux. C'est le cas de ses disques Oxygène et Equinox, notamment vendus à 18 et 10 millions d'exemplaires. Depuis 4 décennies, Jean-Michel Jarre expérimente des musiques de films, donc aux méga-concerts, de paroliers, au contrepoint musical qu'il offrait récemment aux photos de Sébastien Salgado pour son exposition Amazonia. Les aires de jeu semblent infinies pour le compositeur. Oxymore, nourri des travaux de l'un de ses maîtres Pierre-Henri, est donc le premier disque commercial composé et conçu en multicanal et en binaural qui voit le jour dans le métaverse, à Oxyville précisément. Le pied entre deux mondes, Jean-Michel Jarre s'immerge dans le réel pendant une heure sur Nova, le temps de partager avec nous les musiques qui l'ont façonné, transcendé et inspiré. Et pour commencer, quelle serait celle qui condenserait tout? Quelle musique, Jean-Michel, vous traduirait le mieux?
Je ne sais pas s'il y a une musique qui me traduit le mieux, mais la première musique qui me vient à l'esprit, ce serait un morceau de Chet Baker, qui en fait a été, pour des raisons très particulières que je peux vous expliquer, ma première émotion sur l'effet du son sur le corps. C'est-à-dire que ma mère était une grande résistante pendant la guerre. Elle a connu une dame qui s'appelait Mimi Ricard pendant la guerre, en prison, et ensuite dans les camps. Et en fait, à la fin de la guerre, cette Mimi Ricard a créé, rue de la Huchette à Paris, le Chat qui pêche, qui était le club de jazz le plus influent de l'époque, qui a accueilli Archie Shepp, John Cherry, John Coltrane, Chet Baker. Et ma mère allait voir cette femme le dimanche après-midi, une fois comme ça, régulièrement. Et moi, j'étais petit gosse qui traînait dans le bar et je descendais dans la cave. Et là, j'étais en rapport avec des gens, des monstres du jazz dont j'avais aucune idée de l'importance, d'ailleurs. Et je me souviens que pour l'anniversaire de mes 10 ans, Chet Baker était en train de répéter et il m'a assis sur le piano droit et il a joué pour moi avec sa trompette à quelques centimètres de ma poitrine de gosse. Et je me souviendrai toute ma vie de l'impact du son sur mon corps. Ça a été le premier choc du rapport physique entre les ondes sonores, le son de l'instrument et le côté organique finalement du son. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, ça.
My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile with my heart. Mm-hmm. Your looks are laughable, unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay, little Valentine.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles.
Dans les oreilles de...
Jean-Michel Jarre.
C'est avec le souvenir de cette vibration, cette sensation, celle du souffle de la trompette de Chet Baker qu'il a choisi de se présenter à nous. Chet Baker qui chantait à l'instant My Funny Valentine Jazz. Chanson française, musique concrète, rock anglais, électro et même classique orientaux. Jean-Michel Jarre est notre invité ce matin et dans ses oreilles, on parcourt tous les rayons.
Mambo, mambo, balliamo il mambo, mambo, occhio nel mambo, mambo, e viva mambo.
Mambo, mambo, balayana mambo, mambo.
Nova. Dans les oreilles de...
Jean-Michel Jarre.
Marino Marini et son quartet sur Radio Nova, connu pour ses reprises de chansons napolitaines. Le musicien italien sortait à la fin des années 50 ce mambo qui deviendra un tube. Dicha 7 23 17-23, un air familier pour notre invité ce matin, le compositeur Jean-Michel Jarre.
Alors c'était un truc qui passait dans les jukebox, qui était un... Je me souviens plus comment ça s'appelait. C'était un groupe italien qui s'appelait Marino Marini, et c'était quelque chose qui en fait m'a beaucoup touché, dont je me souvenais. C'était un tube instrumental, et j'ai compris pourquoi plus tard. C'est que j'adore, moi, les beaucoup de compositeurs italiens. Chiari, ça m'a d'ailleurs suivi et inspiré quand j'ai travaillé par exemple avec Christophe. C'est-à-dire c'est ce mélange entre une sorte de joie, une légèreté joyeuse qui cache une mélancolie souterraine. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé, touché. On en parlera pour d'autres choses qui sont arrivées après, plus tard. Le premier souvenir musical, je pense que c'était le Sacre du Printemps, quand j'avais 3 ou 4 ans, où ma mère et mon père passaient ça sur le tourne-disque de la maison en 78 tours. Et c'était quelque chose qui m'avait totalement, pas terrorisé, mais totalement marqué. C'est-à-dire ce côté, ça m'a marqué le foisonnement de cette œuvre qui pour moi est de toute façon ma musique favorite, ma création favorite, tout genre confondu, qui m'a beaucoup marqué sur cette espèce de maelstrom sonore, quoi, de Big Bang symphonique, quoi.
C'est ça qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous plaît dans cette œuvre ?
L'effervescence, le côté touffu, le côté en même temps brut. Et ce que j'ai découvert plus tard, à la fois le côté extrêmement simple et très sophistiqué. Et puis cette espèce de foisonnement d'émotions, de naissance. Et puis le Sacre du Printemps, le titre, est tellement évocateur de quelque chose qui naît. Donc cette sensation-là, et ça associé à l'enfance, en ce qui me concerne, a été très important. Et puis une autre chose aussi, qui a été d'ailleurs le premier disque que j'ai acheté, c'est Ray Charles, c'est-à-dire Georgia and My Mind et What I Say. J'ai 9-10 ans, quoi, un truc comme ça. Mais le premier souvenir, je pense que c'est ça. Et puis, je pense aussi à quelques chansons de Georges Brassens que ma mère écoutait quand j'étais petit. Léo Ferré,
Du texte et du classique ?
C'est ça, texte, classique. Et puis, le rock, je l'ai découvert un petit peu plus tard.
Nova. Dans les oreilles de...
Jean-Michel Jarre.
Ces deux récitals feront date dans les annales de l'Olympia.
Je me souviens, quand j'étais petit, ma mère m'a emmené à un concert d'Oum Kalsoum, le seul qu'elle ait fait en France.
À l'Olympia.
Et à l'Olympia. Et je me souviens que ça avait duré, je ne sais pas, 2h30. Elle avait fait 3 chansons, parce que chaque chanson durait 45 minutes. Et quand je suis sorti, j'ai dit à ma mère, je veux me marier avec elle. C'était évidemment la diva du monde arabe. La musique d'Oum Kalsoum n'était pas liée à un continent ou à une communauté. C'était juste une sorte de Maria Callas populaire, d'une certaine manière. Et c'est comme ça que ma mère, je pense, était attirée. C'est pas parce que c'était pas lié avec le monde arabe, c'était simplement lié à la musique. Moi, je me souviens plus, mais ma mère m'a dit que j'avais les larmes aux yeux en écoutant Oum Kalsoum. Mais je comprends pourquoi, parce que c'est effectivement quelque chose qui est... Mais encore une fois, finalement, on répète toujours les mêmes sensations, celles de l'enfance, c'est-à-dire ce mélange entre la joie et la mélancolie, la joie et la tristesse. C'est toujours, finalement, moi, ce qui m'a toujours touché dans n'importe quelle forme de création, c'est cette espèce de contradiction qu'il y a entre la mélancolie et la légèreté, ce mélange-là, et qui fait que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. Et puis l'autre chose aussi qui m'a beaucoup impressionné là, c'est Edith Piaf. La même chose, Edith Piaf, pour moi, Oum Kalsoum, Edith Piaf, David Bowie, c'est un peu la même chose. Pourquoi ? Parce que ce sont des gens qui chantent pas en rythme et qui chantent pas juste. C'est-à-dire que ce qui crée l'émotion dans la chanson, dans la voix ou dans la voix, c'est les gens qui se décalent par rapport au tempo, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas vraiment, qui tournent autour et qui en même temps prennent des libertés par rapport à la justesse. C'est en constamment en tension et au bord du morceau, en fait, d'être à la marge.
Entraîné par la foule qui s'élance et qui danse, une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux.
Et on voit que les plus grands interprètes sont les interprètes qui prennent des libertés par rapport au format de la composition. Ils sont juste à côté.
Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre, je lutte et je me débat. Mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres, et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure.
La première musique que j'ai entendue d'un film devait être une musique de mon père, qui devait être La tête contre les murs de Georges Franju, qui était un disque qui était chez ma grand-mère, donc la mère de mon père, et qui passait en boucle. C'est intéressant parce que d'ailleurs dans la carrière de mon père, qui est connu surtout pour Laurence d'Arabie, Docteur Jivago, finalement la carrière qu'il a fait aux États-Unis. Je pense que la partie la plus intéressante, c'est la musique qu'il a composée pour le TNP, pour Jean Villard, à l'origine du Festival d'Avignon. Et puis aussi toutes les premières musiques qu'il a pu faire pour Georges Franju, Alain Resnais, etc., qui en fait sont assez fondatrices d'un esprit de la musique de film française. Il y a deux musiques de films qui m'ont frappé, c'est celle-ci et puis Ascenseur pour l'échafaud aussi, de Miles Davis, avec cette idée d'improviser à l'écran. C'est quelque chose qui m'a beaucoup influencé dans ma vie, ça.
Dans les oreilles de
Jean-Michel Jarre.
Et pour rester en tout cas sur les expériences de concert, vous qui avez donné ce qu'on a appelé des méga concerts, vous, quel est en tant que spectateur l'un des concerts qui vous a le plus marqué ? Est-ce que justement c'est des choses spectaculaires ou pas spécialement ?
Pas spécialement. Si on continue un peu chronologiquement, en fait, moi, les concerts qui m'ont marqué, c'est quand je jouais dans des groupes de rock quand j'avais 14-15 ans et qu'on allait à l'Olympia, une époque dorée de l'Olympia, quand en fait l'Olympia ouvrait ses portes à des groupes, notamment la plupart du temps des groupes anglais, pratiquement une grande partie de la nuit. Et donc là, j'ai vu plein de groupes comme Soft Machine, comme les débuts de... J'ai même vu Jimi Hendrix à la salle des fêtes d'Issy-les-Moulineaux. et des groupes comme Renaissance, comme enfin, des tas de groupes qui sont devenus comme Cream, des groupes comme ça, et qui passaient, ils débutaient, ils n'étaient pas encore, c'était pas encore des méga stars d'une certaine manière.
Donc ça veut dire que l'expérience de concert, vous la vivez assez simplement comme vous iriez, je sais pas, en club ou...
Oui, mais en même temps, je me disais, et c'est ça que j'ai aimé profondément et qui m'a marqué, c'est le fait que cette musique était la musique de ma génération, mais j'ai senti très vite que c'était pas notre révolution, c'était la révolution anglo-saxonne. Le rock, finalement, était une musique ethnique qui a envahi le monde, mais une musique ethnique anglo-saxonne. Et quoi qu'on fasse, quel que soit le talent des gens qui ont été influencés par ce format musical, ce genre musical, ben, n'ont jamais été à la hauteur des originaux. C'est comme pour nous, on a d'avoir un Jacques Brel malgache ou d'avoir une Edith Piaf brésilienne. On va aimer, mais on a les originaux. Et je me suis toujours dit, mais finalement, ils tiennent leur révolution, mais c'est pas la nôtre. Nous, pendant ce temps-là, il y avait des gens de la variété qui faisaient des covers de ces morceaux anglo-saxons. Et quand j'ai été en contact avec le monde de la musique électroacoustique, électronique, je me suis dit, mais c'est ça. Ça, c'est nous.
Tired starving.
oreilles. Dans les oreilles. Dans les oreilles de...
Jean-Michel Jarre.
Vivre des concerts comme on kiffe en club, c'est l'expérience que partageait avec nous à l'instant Jean-Michel Jarre. Et pour illustrer ces moments, qui de mieux que le super groupe anglais Cream, composé du chanteur et guitariste Eric Clapton, du bassiste et chanteur Jack Bruce et du batteur Ginger Baker. C'était White Room, la bande-son d'une époque. Dans un instant, nous suivrons les premiers pas de notre invité au GRM, ses expériences de parolier également, une immersion dans laquelle les musiques de Nino Rota côtoient celles de Trent Reznor et de John Hopkins. Vous l'aurez compris, le voyage n'est pas terminé.
Dans les oreilles de
Jean-Michel Jarre.
Apache sur Nova, morceau de western rock instrumental à l'origine composé par Jerry Lordan qui deviendra avec les Anglais de The Shadows en 1960 un tube mondial, qualifié quelques années plus tard par DJ Kool Herc, pionnier du hip-hop, comme étant l'hymne national du genre. Et de fait, il s'agit de l'un des morceaux les plus samplés de l'histoire du rap et même de la jungle. Un morceau qui a une place particulière dans la bande-son personnelle du compositeur et producteur Jean-Michel Jarre, notre invité ce matin.
Les premières musiques qu'on joue quand on a vraiment 13-14 ans, c'est toute la musique des Shadows. Tout ce qui est instrumental, les guitares, les morceaux comme Apache, comme tous ces morceaux qui étaient des morceaux très sophistiqués sur le plan guitare. D'ailleurs, Jimi Hendrix dit plus tard que Hank Marvin, le leader des Shadows, était le plus grand guitariste de toute l'histoire de la pop et du rock, ce que je comprends parfaitement. Après, un petit peu vers 17 ans, où en fait, j'avais un grand-père qui était un personnage tout à fait extraordinaire, qui m'a beaucoup marqué, qui était en fait l'image paternelle dans la famille, puisque moi, mon père est parti quand j'étais très, très jeune, et qui était à la fois musicien, joueur de hautbois, et en même temps, ingénieur et inventeur. Il a inventé une des premières consoles de mixage pour la radio. Il a inventé le premier Tepaz, le premier tourne-disque à pile, l'ancêtre de l'iPod, où on partait pique-niquer avec le tourne-disque avec pile pour écouter Chet Baker, justement, ou Edith Piaf, ou les premiers disques d'Elvis. Et en fait, lui m'a donné un magnétophone. On m'a offert à Noël un magnétophone d'occasion qu'il avait, parce qu'il était toujours en train de bricoler des trucs. Puis il me dit, bah tiens, il m'offre un truc d'occasion qui était monstrueux pour moi, la taille. Et je me suis devenu obsédé avec ce magnétophone et j'enregistrais tout. Et j'enregistrais notamment les bruits de la rue. Moi, mes grands-parents habitaient devant la gare de Perrache à Lyon, devant le cours de Verdun, à l'époque qui n'était pas encore traversé par l'autoroute qu'il a défigurée plus tard, et où il y avait des cirques qui s'installaient. Et en fait, c'était au moment de la guerre d'Algérie. En fait, là, il y avait donc les cafés de la gare qui étaient en face, qui étaient donc en dessous de l'appartement de mes grands-parents. Et je faisais glisser le micro et j'enregistrais, même la nuit, aussi bien les soldats et les putes qui étaient dans le bar, avec cette espèce de bruit, avec le laitier qui venait poser les gros pots de lait métalliques, et puis les sons de cirque aussi, parce que le cirque s'installait en face. Et donc toute cette espèce de capharnaüm de son était quelque chose qui me fascinait. Et un jour, j'ai passé la bande à l'envers et j'ai cru que des aliens me parlaient. Et à partir de là, j'ai commencé à déformer dans le groupe mes sons de guitare. Je les passais à l'envers, je le faisais. Et en fait, sans le savoir, j'étais un petit gosse, un petit monsieur Jourdain de la musique électroacoustique, parce que je savais pas ce que je faisais. Et quand je rentre chez Fer, je me dis, ça correspondait en fait à ce que intuitivement j'étais en train de faire moi avec mes petits moyens, quoi.
Donc vous faisiez quoi comme musique à cette époque-là? Du rock, du...
C'était un peu du le rock sans moyens sonne comme le punk. Donc c'était une sorte de punk. Le groupe s'appelait les Dustbins. Les poubelles en anglais, donc il y avait un côté un peu volontairement un peu trash. Les premières musiques que j'ai faites, c'était pour le groupe, pour les groupes dans lesquels j'ai joué.
Et là, c'est une période où vous écoutez plutôt de la... Qu'est-ce que vous avez dans les oreilles à ce moment-là? Vous écoutez plutôt de la musique concrète? On évoquait le GRM ou en fait, ça a toujours été les deux, en fait?
J'ai toujours écouté un peu les deux. C'est-à-dire, à la fois, à cette époque-là, je m'intéressais forcément à toute la musique contemporaine, Stockhausen, Xenakis, etc. Et en même temps aussi à tout ce qui est prog rock. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le GRM, c'est qu'en fait, d'ailleurs sur les conseils de Schaeffer, qui m'a dit, mais perds pas ton temps plus loin par rapport à ce que tu fais, toi ton destin c'est plutôt d'aller vers le public et de mettre en pratique ça et de ce que tu es. Et en fait, moi ce qui me frustrait un petit peu, c'est que je me rendais compte que des choses qui étaient des thèmes, des approches sonores qui étaient faites de manière très cérébrale et assez dogmatique au GRM, en fait, les gens du prog rock, comme Soft Machine, comme les débuts de Pink Floyd, etc., le faisaient de manière intuitive. Et en intégrant ce qui, pour moi, a toujours été fondamental, c'est la notion de mélodie. C'est toujours quelque chose que j'ai essayé de faire, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, mais c'est finalement de faire un pont, une passerelle entre l'expérimentation et la pop et la mélodie, quoi. Alors, quand je sors du GRM après pour vivre, en fait, je fais plein de choses. Je fais de la musique pour des pubs, je fais des chansons.
Mais c'est ça. Et à quel moment vous êtes comment vous vous retrouvez parolier?
Mais totalement par hasard, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les lettres. Parallèlement, je faisais une licence de lettres et donc j'aimais beaucoup écrire. Pour moi, je suis devenu parolier par hasard parce que, en fait, en s'étant enfermé grâce à Francis Dreyfus, qui était notre éditeur commun à Christophe et à moi, en fait, on s'est retrouvés en studio jour et nuit en lockout, comme on dit, enfermé en studio au studio Ferber pendant à peu près 3 mois pour justement... Moi, j'étais obsédé à l'époque par les albums concept King Crimson, etc., tout ce genre de choses qui n'existaient pas du tout en France, où en France, les albums étaient surtout une suite de chansons, et ce qu'avait fait d'ailleurs Christophe jusque-là. Et en fait, dès le départ, la vision que j'avais par rapport à ce qu'on était en train de faire, c'était justement d'essayer de créer un album qui, non pas nécessairement raconte une histoire, mais enfin, en tout cas, procède du même univers qui a été les Paradis Perdus. Donc, j'ai travaillé beaucoup aussi sur la patte sonore aussi qui m'intéressait, donc avec des synthés, avec différentes choses, ce qui intéressait aussi Christophe. Et puis quand il s'est agi de mettre des mots, manifestement les paroliers de chansons, ça collait pas. Ça ne collait pas par rapport à justement l'univers sonore et le fait de se dire, bah, en fait, les mots, il faut qu'ils aient une importance aussi par rapport à la phonétique. Et pas seulement par rapport au storytelling, si j'ose dire. Et donc, du coup, je m'y suis collé. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait après dans les différentes incursions que j'ai pu faire dans le monde des mots par rapport à la chanson, où en fait, c'est toujours parti de l'angle de production et de l'angle de l'univers sonore, d'abord.
Dandy, un peu maudit, un peu vieilli, mes musiciens sont ridés sur ce clavier, c'est jauni. J'essaie de me rappeler encore une fois les accords de ce rock sophistiqué qui étonnait même les Anglais.
Dans les oreilles,
Nova.
Dans les oreilles de
Jean-Michel Jarre.
Le disque récemment qui était devenu un disque de chevet, c'est la musique de Trent Reznor, Atticus Ross, du The Social Network, de David Fincher. Je trouve que c'est un vrai séisme par rapport à la musique de film, où pour la première fois, Hollywood, enfin en tout cas, même si c'est le cinéma indépendant, va finalement reconnaître officiellement, puisqu'il a eu l'Oscar de la musique, sur une musique qui est fondamentalement à l'opposé des dogmes et des canons de la manière dont on approche la bande-son et la musique de film à Hollywood depuis des décennies. C'est une approche complètement électronique et en même temps avec justement ce contrepoint. Moi, j'ai toujours considéré que la musique de film devrait être un contrepoint et pas une illustration. Et puis sortir aussi de cette sempiternelle grandiloquence à la sous Moussorgsky qui moi me gêne beaucoup dans les films, surtout actuellement depuis maintenant une vingtaine d'années. Je veux dire qu'effectivement il y a eu dans les années, et là c'est pas un problème de génération, c'est objectif, la créativité de gens comme Nino Rota, comme Ennio Morricone, comme mon père Maurice Jarre ou Michel Legrand ou Georges Delerue, etc. Il y a une approche notamment sur le plan mélodique qu'on n'a plus. Pas parce que les musiciens aujourd'hui sont moins bons, simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des musiques superviseurs qui vous disent ce qu'il faut faire, et surtout, dès qu'il commence à y avoir une ligne mélodique, il ne faut surtout pas la mettre, il faut rester dans une sorte de sound design symphonique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a gêné. Parlant, qui m'a toujours suivi, je dirais Nino Rota. Nino Rota, que je considère l'égal de Mozart, de Miles Davis ou de Picasso. Enfin bon, c'est pour moi une des bases. La Dolce Vita, par exemple, de Fellini. Et aussi, beaucoup plus tard, Le Parrain, qui est quand même une musique qui est à la fois fondamentalement italienne et fondamentalement universelle aussi.
les oreilles.
Dans les oreilles.
Nova. Dans les oreilles de...
Jean-Michel Jarre.
Vous aurez reconnu la bande originale du Parrain sur Radio Nova, une musique composée par Nino Rota qui succédait aux compositions de son contemporain Trent Reznor, qui occupe une place de choix lui aussi dans la discothèque de notre invité ce matin, le compositeur Jean-Michel Jarre, compositeur donc expérimentateur, producteur et désormais président de la commission création immersive du CNC. Il a sorti hier Oxymore, un disque composé en multicanal et en binaural et qui sort à la fois dans le monde réel et le métavers dans la bien nommée Oxyville, un disque dont nous parle Jean-Michel juste après un petit retour sur le rapport entre la musique et l'image. Et dans ce que vous me racontiez sur Trent Reznor, sur la l'idée du contrepoint par rapport à l'image, c'est quelque chose que je vous ai entendu dire par rapport à l'une de vos dernières compositions en regard à l'œuvre de Sébastien Salgado pour Amazonia.
Exactement.
C'est-à-dire, ça a été le... Là, oui. Là, on vient sur des œuvres plus récentes, mais...
À travers la Philharmonie et les gens de la Philharmonie, et de Salgado, bien sûr, Sebastião Salgado lui-même, de concevoir la bande-son d'une exposition photographique, ce qui est un peu l'inverse d'une bande-son pour le cinéma, puisque, en fait, dans le cinéma, on s'installe dans un fauteuil et on regarde un film de A à Z. Une exposition photographique, on ne sait pas quand le spectateur auditeur arrive dans la musique et quand est-ce qu'il part et par où il commence. Donc c'est un rapport au visuel qui est totalement différent. Donc ça m'a beaucoup intéressé et en même temps déjà aussi de travailler sur les sujets d'immersion sonore, notamment par rapport à ce que représente la forêt amazonienne.
Là, votre dernier album, Oxymore, c'est ça. On est dans une immersion totale, on est dans une écoute. Enfin, c'est-à-dire qu'on revient d'ailleurs à cette histoire de technique et de musique.
On a trop souvent séparé, en France et en Europe, la culture de la tech. On a toujours considéré la technologie d'une manière avec un peu de condescendance et on oublie, en fait, que c'est la technique qui dicte les styles. C'est parce qu'on a découvert la manière de faire du bleu dans les vitraux que d'un seul coup, on a changé l'art du vitrail, par exemple. Où on introduit ce qui deviendra plus tard le bleu clin. Le fait que on a inventé le violon et c'est comme ça que Vivaldi a pu faire la musique qu'il a faite. Ou la guitare électrique a été inventée et c'est comme ça que Jimi Hendrix ou Slash ou autre existe. Et parce qu'on a inventé le cinéma, la caméra, qu'on a eu Fritz Lang, Godard ou Tarantino, et pas l'inverse. Et donc, pour moi, la technologie a toujours été inhérente à ma curiosité, à la manière d'avancer. Je ne suis pas du tout dans la nostalgie, et plutôt dans la curiosité de l'instant. Et effectivement, les outils technologiques, et ce n'est pas un propos de geek, ça, c'est vraiment fondamental. Je pense que les nouvelles technologies à chaque génération apportent son lot de nouveautés, de nouveaux genres, définissent des styles. J'aurais pu parler aussi des cinq premiers singles d'Elvis qui ont été fondateurs aussi pour moi, notamment aussi sur le plan, quand je parlais du format, pourquoi les disques d'Elvis faisaient 3 minutes, et c'est parce qu'on pouvait gravé sur les premiers 78 tours uniquement 3 minutes qui rentraient dans les jukebox. Et en fait, c'est devenu le format pop de la radio, passait des morceaux de 3 minutes parce que c'était les seuls, quoi. On pouvait les graver ça sur une face de 78 tours, on pouvait graver que 3 minutes. On voit bien, ensuite, quand le LP, les albums sont arrivés, bah, ça a été lié un peu au prog rock, ça a été lié à beaucoup plus ma génération, de pouvoir faire des morceaux qui duraient 20 minutes. Une face de 33 tours d'album.
Élève de Pierre Schaeffer, vous convoquez sur ce dernier album Pierre-Henri. Qu'est-ce qui fait qu'on retrouve Pierre-Henri dans Oxymore ?
Ma règle, c'est ma composition. C'est ce que je veux entendre au moment où je fabrique le son.
Je pense qu'il hante cet album. Je voulais collaborer avec lui. D'ailleurs, cet album, je tenais à le co-signer avec Pierre-Henri. Parce que même si j'utilise finalement peu de sons de Pierre-Henri, c'est pour moi la source de ce projet. c'est-à-dire justement cette approche à la fois brute et sophistiquée, à la fois féminine et masculine, et dans la musique concrète de Pierre-Henri, il y a les deux. Il y a aussi l'idée de conquérir l'espace, c'est-à-dire une musique, il a été un des premiers à explorer la spatialisation, il a même créé un appareil absolument dément qui était une sorte de spatialiseur, un grand cercle, comme une sorte de grand hula hoop, comme ça, ou de grand cercle, où il faisait passer un aimant pour faire passer les sons dans des haut-parleurs. Et je pense que, aussi, je pense que je l'ai suffisamment trahi pour qu'il se sente heureux. Je l'espère.
Dans les oreilles de
Jean-Michel Jarre.
J'aime bien écouter la musique sur des écoutes standards, techniquement, pas du tout des grosses enceintes sophistiquées. Et j'aime beaucoup aussi écouter au casque. Et j'aime bien écouter dans le train aussi.
Et qu'est-ce que vous écoutez en ce moment ?
J'écoute beaucoup d'électro, de musique électronique, mais j'écoute un peu de tout en fait. J'écoute du classique, j'écoute du jazz, ça dépend. Et j'aime bien aussi le métal, le heavy metal. J'aime bien le. Donc il y a pas de. C'est plutôt par moment.
En musique électronique, ce seraient les gens que vous avez invités sur votre album Electronica, ouais.
Oui, alors évidemment, Electronica, j'ai invité des gens qui ont eu la gentillesse de venir, qui sont tous des gens qui comptent dans ma vie. Massive Attack, par exemple, Moby, Laurie Anderson.
Qui revient, Laurie Anderson, avec laquelle vous avez déjà collaboré.
Oui, oui, et puis avec qui je vais peut-être recollaborer encore. Enfin, c'est une longue histoire entre nous, à travers le temps.
So you better get ready. Ready to go. You can come as you are. Pay as you go.
Bah, Laurie est pour moi le plus bel elfe de la musique moderne. Et en même temps, c'est un artiste complet que j'admire totalement, qui est aussi importante, peut-être encore plus, dans l'art contemporain visuel que dans la musique. Son œuvre sur le plan plastique et visuel est peut-être encore plus important que son œuvre sur le plan sonore. Et puis, cette espèce de poésie qui transpire d'elle à chaque instant, quoi. C'est pour moi une de mes artistes favorites, tout genre confondu. Le dernier morceau que j'ai écouté, c'est l'album de John Hopkins. Max Cooper, John Hopkins sont des gens, pourquoi je les écoutais, c'est de manière intéressée, parce qu'ils sont penchés sur justement le binaural, etc., tous les sujets de spatialisation, et que ce sont des artistes que j'aime et que je suis. Rien à inventer sur le plan des émotions. En fait, les émotions humaines sont les mêmes il y a 5000 ans, il y a 200 ans ou dans 200 ans. C'est-à-dire, finalement, on se prend toujours les mêmes thèmes, le thème de la solitude, de l'amour, de la mort, des sentiments basiques, les sentiments principaux humains. Ce qui change, ce sont les outils, c'est la forme. Il y a 12 notes pour la musique en Occident. Et on a fait des millions de morceaux avec ces 12 notes. Donc en fait, on voit bien que ce qui fait finalement la spécificité d'une création musicale, c'est finalement la forme. C'est finalement le fait de... Et c'est la forme et c'est les outils qu'on utilise. Et on va pas faire la même musique, même si on veut, même si on, à la fin des fins, on exprime la même chose avec un tam-tam, un synthé ou un algorithme d'intelligence artificielle.
Et enfin, dernière question, c'est quoi la musique pour vous ? Qu'est-ce que ça représente ?
Alors, la musique, pour moi, je reprendrai une phrase de Goethe qui me vient à l'esprit. c'est de l'architecture liquide. De la même manière qu'on pourrait dire que l'architecture, c'est de la musique gelée. C'est-à-dire qu'il y a un rapport entre la musique et l'architecture, c'est-à-dire la pureté du geste, qu'on essaye d'attraper comme un mirage, qu'on n'attrapera sans doute jamais, mais ce qui fait que si le corps vous porte, finalement, il n'y a pas d'âge de retraite pour les musiciens, parce qu'on essaye de se rapprocher de ce mirage, de la création parfaite qu'on a en tête, qui probablement n'arrivera jamais.
La quête d'une vie pour Jean-Michel Jarre qui partageait avec nous ce matin sa propre quête et celle de ceux qui l'animent. Je vous rappelle que son dernier album Oxymore est disponible depuis hier, que vous pouvez l'apprécier aussi bien dans le métavers à Oxyville que dans le monde réel, notamment via des performances live en audio spatial qui auront lieu à Paris du 23 au 25 octobre prochain au Palais Brongniart. Merci à Mathieu Boudon pour la réalisation de cette émission qui, je vous le rappelle, est dès à présent disponible en podcast et en version augmentée. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Quant à moi, eh bien vous le savez, je vous retrouve dans quelques minutes côté Grand Mix de Radio Nova.
Nova.
Dans les oreilles de...
En fait, la musique, elle est essentielle pour une chose, c'est mettre dans un état émotionnel.
Dans les oreilles.
La musique, c'est des sons organisés, c'est des respirations.
La musique, c'est le lien entre le matériel et l'immatériel.
Nova.
Retrouvez Dans les oreilles 2 et sa playlist sur nova.fr.